Et ce que nous voulons faire ce matin ensemble, c'est de voir, d'avoir un aperçu, d'avoir une fenêtre dans l'esprit de notre Seigneur, notre céleste frère, comme nous venons de chanter, lorsqu'il est mort pour nos péchés et qu'il a fourni par lui-même une expiation pour les pécheurs que nous sommes. Et la Bible, dans sa sagesse, nous donne pas seulement les événements et les faits vus de l'extérieur, mais nous donne même ce que Jésus a dit. Il y a cette phrase de Jésus qu'il a énoncée sur la croix, et nous savons, de par la parole, que c'est du cœur que la bouche parle. Et donc, quand Jésus, sur la croix, il parle, vraiment, c'est son cœur qui se dévoile. Ici, en Matthieu 27, et les versets 45 et 46, nous avons probablement la plus sombre de ces phrases, la plus difficile. Depuis la sixième heure, il dit, jusqu'à la neuvième, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabachthani !» C'est-à-dire, dans la traduction, hein, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelqu'un dit que Dieu a eu un fils sans péché, mais il n'a jamais eu de fils sans chagrin, sans douleur. Et nous savons que Jésus est un homme de douleur et habitué à la souffrance. Mais à l'approche de la crucifixion, son cœur était vraiment bouleversé, le cœur de Jésus. Marc dit, c'est Marc 14, verset 33, que Jésus commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Est-ce que nous pouvons imaginer ça? Jésus commence à éprouver de la frayeur et des angoisses. Une autre traduction dit, l'angoisse le saisit. Et Matthieu dit qu'il a dit à ses disciples dans le jardin, « Mon cœur est plein d'une tristesse mortelle. » Je suis triste jusqu'à la mort. Luc 22, verset 44 dit, saisi d'angoisse, Jésus priait avec encore plus d'ardeur. Sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient à terre. C'est la souffrance dans laquelle nous voyons Jésus. Mais après avoir imploré son Père à trois reprises, notre Seigneur y s'est levé, calmement, avec résolution, pour aller à la rencontre de la foule qui l'approchait pour l'arrêter. Et il n'y a jamais eu de la part de Jésus un mot de protestation, de complainte. Pierre nous dit, c'est 1 Pierre 2, 23, « Injurié, il ne ripostait pas par l'injure. Quand on le faisait souffrir, il ne formulait aucune menace. » Et vous savez qu'il a subi de nombreux supplices. On peut penser à la douleur fulgurante des épines, au fouet avec lequel il a été flagellé, du poids de la croix qu'il a porté jusqu'au calvaire, de l'impact des clous et de la déchirure même de sa peau lorsque les clous ont pénétré son corps. Et il n'y a jamais eu sur la croix un seul mot pour appeler à l'aide. C'est en fait tout le contraire qui s'est produit. Sur la croix, il a pensé à prier pour ceux qui lui faisaient du mal. C'est sur la croix, hein, aux premières heures, qu'il a assuré à ce voleur pénitent qu'il serait avec lui au paradis. Il a pensé aussi sur la croix à prendre soin de sa mère et de la confier aux soins de l'apôtre Jean. Mais nous avons ici, pour la première fois, qu'il pousse un cri. C'est un cri profond et mystérieux. Il dit, vers la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte. Je vous laisse imaginer cette voix forte qui crie sur la croix, angoissée. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est en réalité un verset difficile à méditer, encore plus difficile à prêcher, en raison de son poids effroyable. C'est un cri d'abandon. C'est le cri de l'abandon. Il se sent, car il est abandonné. Et nous voyons en regardant que le cri est couvert de ténèbres. Ça, c'est le verset 45, qui nous dit que ce cri a été précédé d'un miracle. Depuis la sixième heure jusqu'à la neuvième heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et puis, c'est vers la fin de ce temps, mais lorsque les ténèbres sont toujours là, c'est vers la neuvième heure, la Bible nous dit qu'il va crier. Notre Seigneur a été crucifié vers 9 heures du matin, et à la sixième heure, donc on est vers midi, les ténèbres sont venues sur toute la terre, il dit. Il n'y avait pas de lumière de soleil, et il ne s'agit pas de quelque chose de normal, parce qu'on est en plein milieu de la journée, on est à midi. Donc c'est au milieu de la journée que les ténèbres tombent, et c'est sans doute un signe divin créé par un acte de Dieu. Luc 23, 45 dit que le soleil s'obscurcit, littéralement la lumière du soleil s'éteignait. On se demande, mais qu'est-ce qui se passe? On pourrait imaginer que c'est comme si la nature elle-même compatissait avec celui qui souffrait, le protégeait d'une manière ou d'une autre. Mais encore plus que cela, je pense que Dieu jetait un voile sur l'agonie du Sauveur. Il y a quelque chose de privé, quelque chose de sacré. Vous savez qu'on l'avait dénudé, il est pendu là, nu devant la moquerie des hommes, tous ceux qui passent raillent, se moquent de lui. Mais après, c'est comme Dieu dit stop. Dieu enlève la lumière, il le cache par ses ténèbres. Et je crois que les moqueries à l'encontre de notre Seigneur ont dû s'arrêter pendant ce temps. Il n'y a aucune mention d'un quelconque son pendant ces trois heures. Il y avait certainement des sons, peut-être des bruits, des animaux, peut-être des personnes qui se posaient la question, mais qu'est-ce qui se passe? Mais pas un mot de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la question qu'on va se poser, quel était l'état de notre Seigneur pendant cette période de trois heures? Est-ce qu'il faisait l'expérience d'une communion intime, la présence même inhabituelle de Dieu avec lui? Souvent, quand vous lisez les histoires des martyrs, il y en a beaucoup d'histoires, nous voyons que leur expérience était un peu comme les trois amis de Daniel. Quand ils sont mis dans la fournaise, c'est comme si tout d'un coup, quelqu'un d'autre est avec eux. Et ils entrent dans une communion presque exquise avec le Seigneur. Et Dieu leur donne une force qui est une force miraculeuse de pouvoir subir cette difficulté. Mais est-ce que ça, c'était le cas de notre Seigneur pendant ces heures de souffrance? Verset 46 nous donne la réponse. Il s'écrie d'une voix forte. Il parle d'un abandon personnel. Il dit, tu, deuxième personne au singulier, tu m'abandonnes. Toi, tu abandonnes moi. C'est quelque chose de très, très personnel. C'est un abandon personnel dont il souffre. C'est un cri même d'étonnement, angoissé. Il crie cela. Et dans notre compréhension de l'incarnation, c'est quand Dieu devient homme, n'est-ce pas? Il prend chair. Nous devons accepter que le Fils éternel de Dieu, dans sa chair, il apprenait des choses, il grandissait, il devenait plus mûr dans sa réflexion, dans sa pensée, tout au long de sa vie terrestre. Luc chapitre 2 est très clair là-dessus. Hébreux 5, verset 8, dit que bien qu'étant fils de Dieu, il a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert. Et plutôt dans le jardin, l'évangile de Marc nous dit que l'angoisse le saisit, c'est l'expression. L'angoisse le saisit. Et ce mot communique un étonnement, un fort étonnement. Il est saisi d'un coup de cette angoisse. Saisi d'effroi, et sur la croix, ce pourquoi, ça communique l'étonnement, ça communique la perplexité, l'horreur même de ce qui se passait. Et tous les disciples qui restaient là autour de la croix, ces femmes surtout qui ont été là, ont dû être stupéfaites et frappées par l'horreur de ces paroles. C'est là que réside le mystère. Mais des choses qu'on peut dire que ne se passent pas, hein, des choses qu'il faut exclure de notre pensée, il faut exclure d'abord qu'il s'agisse d'un simple délire, que notre Seigneur est tellement, il souffre tellement physiquement par la croix que il a perdu un peu le sens de la présence de Dieu. Et donc, ce qu'il dit, c'est un peu dans le délire, même si ce n'est pas réellement le cas. Non, Jésus dit la vérité ici. Il est parfaitement conscient de tout ce qui se passe. Et il ne s'agit pas non plus d'une division de ses natures. Il ne faut pas penser que la nature humaine crie, tandis que la nature divine reste calme. La Bible est claire que les deux natures, parce qu'il y a la nature divine et la nature humaine, Jésus est 100% Dieu ainsi que 100% homme, mais ils sont unis en une seule personne et jamais divisés. Et donc ce qui a été souffert a été vécu par l'ensemble de la personne, l'ensemble de l'être qui était Jésus-Christ. Et nous devons aussi exclure qu'il s'agisse d'une preuve de mécontentement de la part de Dieu, comme si Dieu le Père signifiait à ce moment-là qu'il se passait quelque chose qui était au-delà de sa volonté et qu'il n'était pas heureux en ce moment-là avec son Fils. La Bible nous dit le contraire, que Dieu avait préparé un corps pour son Fils pour ce but précis. Ésaïe nous dit qu'il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Donc le Père ici n'est pas fâché contre son Fils pour ce qu'il est en train de faire. Le cri de Jésus révèle la souffrance de Jésus-Christ. Il y a deux vérités que nous devons garder en parallèle l'une de l'autre. C'est difficile, hein? Parfois on a un paquet, on veut le soulever, puis un autre paquet, on va le poser pour prendre. Mais là, c'est vraiment deux paquets qu'il faut soulever en même temps. Et cette première vérité, c'est que Jésus porte consciemment le péché du monde. Alors, je vous demande dans votre propre expérience si vous avez jamais ressenti l'isolement qui vient d'avoir délibérément offensé Dieu. Il y a une solitude d'esprit qui est le résultat. Il y a une perte de communion, de cette douceur de la communion avec Jésus-Christ. parce que notre conscience nous attaque et nous condamne. Et si nous étions plus sensibles spirituellement, je crois qu'on aurait cette expérience chaque fois qu'on pêche contre le Seigneur. C'est triste qu'on puisse pécher contre le Seigneur sans sentir, en fait, cette angoisse d'esprit et de l'âme. Nous voulons être comme David lorsqu'il a coupé juste un morceau de la robe de Saül. La Bible dit que son cœur, littéralement, l'a frappé. Sa conscience, tout de suite, l'a troublé. Et nous devons prier que nous puissions ressentir la même chose pour chaque acte de péché, chaque parole irréfléchie, chaque insulte, chaque méchanceté. Si seulement nous étions tous et toujours frappés par nos cœurs, dans nos consciences, si seulement nous étions plus sensibles. Mais Jésus est l'être le plus sensible envers le péché qui n'ait jamais vécu. Il n'a pas un cœur endurci par l'incrédulité. Et en ce moment-là, le Christ porte le péché du monde, comme Jean-Baptiste l'a dit. Nous, nous avons l'habitude de porter nos propres péchés. Parfois, on peut se complaire même dans le péché, mais pas Jésus. Et le poids de ce péché tombe sur lui. Qu'est-ce qu'il a dû ressentir? Et l'autre verset qu'il faut garder en même temps à la conscience, c'est que Jésus subit non seulement consciemment le péché du monde, il porte le péché du monde, il a tout ça sur son cœur. Mais il subit consciemment la plénitude de la pénalité du péché. C'est-à-dire, il connaît la totalité de ce qui doit être infligé divinement contre le péché. À la fois, il sent le péché, parce qu'il a porté en lui nos fautes jusqu'à la croix, la Bible dit. Donc, il a le poids du péché, et il a aussi le poids de la condamnation, la pénalité contre le péché. Et cette peine n'est pas simplement la mort physique d'une personne. Il s'agit d'une mort spirituelle, c'est-à-dire de l'aliénation totale de Dieu. C'est la séparation d'avec Dieu. C'est l'absence de tout sentiment d'acceptation de la part de Dieu. C'est d'être mis à l'écart. C'est d'être rejeté. C'est d'avoir ces prières que l'on ne reçoit pas. C'est d'être abandonné de Dieu. Une chose remarquable. Et vous savez, nous, on est nés un peu dans cette condition. Nous sommes nés ennemis de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui se leurrent en pensant qu'ils ont une relation avec Dieu quand ils ne l'ont pas, parce qu'ils ne l'ont jamais, en fait, connu une relation intime avec Dieu. Mais notre Seigneur avait entendu le Père dire à plus d'une reprise, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Il avait connu pendant 33 ans une communion ininterrompue, telle que vous et moi, nous n'avions jamais, même en tant que chrétiens, nous n'avions jamais pu connaître. Vous voyez, c'est un peu la différence entre moi, je dis, un passant dans la rue, je vois quelqu'un à Paris, je te rejette, je ne veux plus te voir, je te déteste. Bon, il va me dire... Ça ne va pas lui changer la vie. Mais si je prends mon fils et je lui dis la même chose, vous voyez que l'impact est tout autre. Et ici, c'est une question du Père et du Fils. L'abandon est ressenti par le Fils et il vient du Père. Nous n'avons jamais approché le sommet de la bénédiction d'une communion qui existait sans interruption entre Jésus, le Fils de Dieu, et son père céleste. Il dit même en Ésaïe que tous les matins, il le réveillait pour lui apprendre des choses. Et en ces heures, il était abandonné de son père. Alors, qui peut expliquer cela? Dieu abandonné de Dieu. Qui peut l'expliquer? Personne ne peut l'expliquer, surtout pas moi. Mais nous pouvons voir là-dedans la souffrance de Jésus-Christ. Et le cri révèle aussi le cœur de Dieu. Réfléchissez à la nature de ces deux protagonistes, hein, de cette transaction, parce qu'il y a deux êtres ici. Il y a le Père, il y a le Fils. Il y a le Père qui abandonne, il y a le Fils qui est abandonné et qui crie dans son angoisse suite à cet abandon. Qu'est-ce que ça révèle donc du Père et du Fils? Eh bien, le cri témoigne au moins de l'infinité de la sainteté divine. Ça témoigne au fait que Dieu est vraiment trois fois saint. Sinon, comment pourrions-nous connaître sa sainteté si par cette cri d'angoisse? Abraham, il a crié par rapport face à la sainteté de Dieu, je ne suis que poussière et cendre. Job est tellement impressionné par la sainteté de Dieu qu'il dit au Seigneur, je me fais horreur à moi-même. La sainteté de Dieu est telle qu'Ésaïe dit, malheur à moi, je suis perdu, car mes yeux ont vu le roi. Dieu est si saint que la Bible dit qu'aucun être mortel ne peut le regarder et vivre. Dieu est tellement saint que même les anges au ciel qui n'ont jamais fait péché voilent leur visage devant sa sainteté. Même, la Bible dit, les cieux ne sont pas purs à ses yeux. Habacuc dit que Dieu est si saint qu'il ne peut même pas regarder l'iniquité. Chose frappante, hein, parce que nous savons aussi que toutes choses sont nues et ouvertes devant celui à qui nous avons affaire. Donc, quelle doit être la répugnance de Dieu à l'égard de tout ce qui est mauvais? Dieu déteste. Mais ce n'est qu'en arrivant à la croix et en entendant le cri, ce cri, que l'on peut se faire une idée de la sainteté de Dieu. Que Dieu, le Père, abandonne son Fils unique. Que le Fils, réfléchissez à cela, au moment même où il se sacrifie en obéissance à son Père, le moment même où il se soumet le plus à la volonté de son Père. Il a dit, si c'est possible, enlève cette coupe, mais pas ma volonté, mais que la tienne soit faite. Et donc, au moment même où il se soumet entièrement, totalement, à la volonté de son Père, il est abandonné par celui à qui il se soumet. C'est incroyable. Parce que Dieu ne peut pas regarder le péché. Ça, c'est le jugement sur le péché. Dieu tourne son dos. Et donc, chacun ici, les jeunes, écoutez ceci, nous ne devons jamais nous imaginer que nous pourrions un jour nous présenter en présence de Dieu avec même un seul péché à notre charge. Même un tout petit péché. Vous savez l'idée commune, hein? Dieu regarde nos péchés, ah, il n'est pas très content avec nos péchés. Hein? Mais il regarde après toutes les belles choses qu'on a faites. Il le regarde, il met dans la balance, et tant qu'on n'a pas trop fait de mal, et on a fait plus de bien, ben Dieu est content, après il est tout, il est doux, il est miséricordieux. Mais mes amis, Dieu a dû détourner même de son propre Fils lorsqu'il a porté nos péchés. Il a abandonné son Fils unique lorsqu'il a pris sur lui nos péchés. Nous pensons que nous pouvons apparaître devant Dieu avec nos péchés et être reçus quand son Fils unique est abandonné. Ce cri prêche donc la sainteté infinie de Dieu. Vous devez avoir une perfection, une robe complètement blanche pour apparaître devant Dieu. Mais ce cri aussi témoigne de l'infinité de l'amour divin. Ce cri prêche la sainteté divine, mais aussi l'amour divin à la fois du Père et du Fils. Comment expliquer autrement que le Père et le Fils se soient mis d'accord? Et la Bible indique ailleurs que c'était même avant la fondation du monde qu'ils se sont mis d'accord sur cela. Qu'ils se sont mis d'accord que quelque chose que de toute éternité n'était pas le cas, qui ne serait jamais plus le cas, mais qu'ils vont l'accepter. Pensez à l'étrange exception de ces heures, comparée à toute l'éternité avant. Jésus dit en parlant, le Fils, il est dans le sein du Père, c'est comme ça qu'il parle. Il dit, le Père et le Fils, nous sommes un, je ne fais rien sans la volonté du Père. Et le Père, quand il parle, il dit ceci, mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Quelle étrange exception à cette communion sans rupture entre le Père et le Fils. Il y a une rupture ici. Et la Bible nous dit que c'est ainsi que Dieu nous prouve son amour. En ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, quoi, Christ est mort pour nous. Dieu a envoyé son Fils unique pour porter notre honte. Et l'Épître aux Éphésiens nous dit que le Christ aime son Église comme un homme aime son épouse. Mais la mesure de cet amour, la grandeur de cet amour se voit dans son sacrifice. La Bible dit qu'il a aimé l'Église et il sait quoi? Il s'est donné lui-même pour elle, afin de la sanctifier, afin de la présenter sans tache, sans aucune imperfection qui puisse venir et tarnir la beauté à ses yeux. Jésus veut regarder sa femme, son Église, absolument pure. Il veut la voir sans tache, ni ride, ni aucune chose. Et il est prêt à subir l'angoisse d'abandon pour que ce soit le cas. Il aime son Église et il s'est donné lui-même pour elle. C'est l'amour infini du Père et du Fils. Alors, une question, combien donneriez-vous, combien dépenseriez-vous pour montrer votre amour envers quelqu'un? On apprécie quand c'est Noël ou c'est notre anniversaire, quelqu'un nous donne un cadeau, on passe un coup de fil, on fait sortir au restaurant, et on apprécie le fait qu'il y a beaucoup d'affection, même dans un seul acte. Ça, c'est du travail pour faire ces choses. Mais jusqu'à quel point êtes-vous prêt à montrer votre amour envers quelqu'un? Combien d'argent, combien, tout votre argent, tout ce que vous avez dans la banque, vous êtes prêt à le dépenser pour aider un frère ou une sœur? Et même si vous pouvez parler jusqu'à aller à donner votre vie, rien qu'on puisse faire ne peut se comparer avec l'amour du Père et du Fils qui seraient prêts l'un comme l'autre à se séparer, ne serait-ce qu'un instant de la communion qu'ils avaient l'un avec l'autre. Et pour l'un de porter la culpabilité, toute la honte, toutes les conséquences, porter le péché du monde et de ressentir jusqu'à l'étonnement l'abandon de l'autre. Et ici, nous n'avons que les paroles du Fils, n'est-ce pas ? Rien dans les Écritures nous donne, ne serait-ce qu'un aperçu même, de ce que cela faisait dans le cœur du Père. Tout ce qu'on a, c'est ces indications que ça, c'est une évidence que le Père aussi nous aime. Il nous aime. C'est son Fils bien-aimé. Et quand il détourne de lui, ce n'est pas d'un ennemi. Il se détourne d'un Fils bien-aimé en qui il a mis toute son affection. Porter notre péché donc a nécessité un abandon total de la part de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie en tant qu'expérience, hein? Comme j'ai dit, les martyrs ne le comprennent pas. Ils ressentent souvent davantage la présence de Dieu dans leur souffrance. Quelqu'un a suggéré que les seuls à pouvoir peut-être s'y approcher seraient des hommes comme Caïn ou Ésaü. Rappelez, on a vu ça la semaine dernière, qu'il a pleuré, mais il ne put convaincre son père à changer de sentiment. Ou Judas. Mais pour ces hommes, eux, ils n'ont jamais connu la communion avec Dieu. Ils ne sont pas partis d'une relation de communion intime avec Dieu. Mais ils ont connu l'horreur de la porte fermée de Dieu, du rejet de Dieu, de la voix qui disait « Éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. » Mais Christ l'a subi en tant que Fils. Et le Père acceptait que ça se fasse en tant que Père. Quel amour! Et le cri révèle finalement l'accomplissement de l'œuvre de Jésus-Christ. Le cri nous prêche l'épuisement complet de la pénalité infinie contre le péché. Le péché est infini dans ses conséquences, parce qu'il est commis contre un être infini. Comprenez ? Je vous ai donné avant cet exemple. C'est une chose de donner un coup de pied à mon chat. C'est une autre chose de donner un coup de pied, le même acte, à ma mère. Et c'est encore une autre chose de donner un coup de pied au président ou au roi du pays. Ça devient une insulte nationale. Et le péché est infini parce que chaque péché, comme David a dit, c'est contre en fait toi seul que j'ai péché. Chaque péché commis contre un être infini, nous péchons contre Dieu. Et le châtiment de l'éternité, comme punition contre le péché, est comprise parce que nous avons péché contre un être infini, donc le châtiment doit être infini. Alors, quelle est l'ampleur d'un péché commis contre un être infini ? Ce péché est infini, mais ce cri de Jésus, ça communique l'épuisement de la pénalité infinie contre cet être infini, parce que le salaire ultime du péché est la séparation avec Dieu, n'est-ce pas ? Le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort, cette séparation d'avec Dieu. Et si notre Seigneur n'avait pas dit quelque chose comme cela, on n'aurait peut-être pas eu l'assurance que la peine ultime a été payée, qu'il est allé vraiment jusqu'à ce point d'être abandonné de Dieu. C'est pour ça que les gens disent, oh, il est souffert comme exemple. Mais comme exemple d'être abandonné de Dieu, vous voyez, ça ne marche plus. Ça, ce n'est pas un exemple. Ça, c'est un substitut qui meurt à notre place. Nous n'aurions pas eu peut-être l'assurance de la plénitude de notre salut. Donc, qu'est-ce que cela dit, ce cri à une personne qui croit vraiment en Christ, sinon qu'il n'y a plus de sacrifice pour le péché ? Qui peut faire mieux que cela ? Tout a été payé, tout a été porté par notre Sauveur. La peine de la mort a été entièrement payée. Pourquoi ? Parce qu'elle a été payée par un être infini, vous voyez ? C'est un être infini qui paye la peine. Moi, je ne pourrais pas payer une peine infinie. Je suis un être fini. Et notre substitut qui porte notre péché a réellement fait l'expérience de l'abandon par le Dieu infiniment saint. Je pense que nous devons louer le Seigneur de nous donner ces mots dans la Bible, de nous avoir partagé l'étonnement de ce cri, de nous avoir donné l'assurance que parce que le Seigneur a été abandonné par son Père, aucun de ceux, ça parle de nous ici maintenant, qui se confient en lui, ne fera jamais l'expérience. Même pour le plus bref moment, ne fera jamais l'expérience de l'abandon. Jamais. Jésus a dit que nous sommes dans sa main et que personne ne peut nous ravirer de sa main. Et dans cette même lettre, il dit tout à la fin, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Puisqu'il a souffert pour nous, nous n'avons pas à souffrir. Nous pouvons marcher avec Dieu ici sur terre et sans même voir la mort, nous passons d'une vie terrestre à une vie céleste, sans interruption. Et nous marchons par la foi avec lui, et d'un seul coup, nous le verrons tel qu'il est. Mes amis, si vous êtes en Christ, vous n'allez pas passer par un temps d'abandon. Dieu va être avec vous dans le moment de la mort, et au moment même de la mort, il va vous recevoir dans sa présence. Et vous le verrez tant comme vous ne l'avez jamais vu auparavant. Vous serez dans son palais, dans sa présence, et cela pour toujours. Pourquoi ? Parce que sur la croix, le Père a accepté d'abandonner, et le Fils a accepté d'être abandonné, pour qu'il puisse porter notre péché et payer la pénalité de notre faute, et pour que nous puissions pour toujours être en communion avec lui. Et c'est pour cela que nous chantons « Rédempteur adorable sur la croix attachée, traité comme un coupable, brisé pour mon péché, ton angoisse suprême, ta douleur, ton tourment, me disent, vois, hein, regarde, vois, je t'aime, j'ai pris ton châtiment. Abandonné du Père, c'est Jésus qui parle, abandonné du Père, dans mon âme, troublée, buvant la coupe amère pour ton iniquité, de l'éternelle flamme, mon amour te sauva et je mourus pour ton âme, pécheur, à Golgotha. Et Jésus, encore le sang de mes blessures, ma couronne de roi, toutes ces meurtrissures, comprends-le, c'est pour toi. J'ai subi ta souffrance, j'ai porté ta langueur. Contemple donc en assurance, en prenant ce repas, contemple en assurance ton grand libérateur. Il est là comme notre libérateur. Et puis notre réponse, ton amour me réclame, me voici cher sauveur, prends mon corps, prends mon âme pour prix de ta douleur. Oui, mon âme ravie désormais ne peut plus que vivre de ta vie et à ta gloire, ô Jésus. Oh Seigneur, merci pour ces choses qui nous dépassent, qui nous étonnent et qui vont nous émerveiller même dans l'éternité. Mais merci pour Jésus qui meurt pour notre âme et qui dit, vois, je t'aime, j'ai pris ton châtiment. Donne à chacun ici la foi de regarder vers Christ comme le grand libérateur. et d'accepter la transaction, le salut qui nous est offert parce que Christ a pris sur lui notre péché et qu'il a subi la pénalité ultime d'être abandonné par son Père. Et nous prions ces choses au nom de notre Sauveur bien-aimé, mort mais ressuscité. Amen.